Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François Dorcival.
Cher Thierry de Montbrial, bonjour. Nous voici pour ce 7e numéro de notre émission Éclairage sur l'actualité internationale. Et donc, tous deux membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie. Je voudrais que nous revenions sur un certain nombre de sujets majeurs qui ont éclairé et plutôt pesé sur l'actualité depuis quelques semaines, en tout cas depuis notre dernier rendez-vous, et en particulier sur les mesures de rigueur que la plupart des gouvernements européens sont en train de prendre ou qu'ils ont déjà annoncées, mesures de rigueur qui se traduisent notamment par une baisse généralisée des crédits de défense. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'en matière stratégique, l'Europe est en train, sinon de démissionner, tout au moins de baisser les bras. Quand on regarde les courbes de la baisse de ces crédits militaires depuis quelques années, on constate que, tandis que les Américains ont redressé les leurs après une baisse très sensible durant les années 90, l'Europe, elle, continue inlassablement de baisser ses budgets. Les Américains sont à environ 4% de leur PIB, produit intérieur brut. Les Européens étaient autour de 2% et aujourd'hui ne reste plus que autour de 2% et moins de 2%. La Grande-Bretagne qui va les baisser les siens et la France, tandis que l'Allemagne nous annonce une réduction forte de ses crédits, moins 45 000 hommes, et elle va toucher très prochainement les 1,2-1,3% de son PIB. L'Espagne est à peine au-dessus de 1 et l'Italie est encore à 1,6-1,7. Donc, je trouve que cette situation est vraiment préoccupante. Est-ce que c'est aussi votre avis ?
Alors évidemment, il y a énormément de choses dans tout ce que vous venez de dire. Bon. Alors, d'abord, une petite remarque à propos de l'Allemagne. Que l'Allemagne baisse de 45 000 hommes, il faut le mettre dans le contexte. L'Allemagne n'a pas voulu passer à l'armée de métier, à l'armée professionnelle. L'Allemagne a conservé la conscription, et ceci pour des raisons de politique intérieure, qui d'ailleurs avaient été débattues aussi en France à l'époque de Jacques Chirac. Donc, je ne pense pas qu'une baisse de 45 000 hommes dans ce contexte, ait une signification particulière. Ceci juste pour ce cas particulier. Alors, je crois que ce problème, il faut le voir dans un contexte large. Dans le contexte large, il faut voir que les États-Unis sont une puissance militaire, sont fondamentalement une puissance militaire. Ils le sont aussi par culture stratégique. Les Américains, n'oublions pas, résolvent face aux grandes crises internationales, utilisent la force armée, et l'utilisent d'ailleurs pas toujours de façon très heureuse, comme nous le savons. Et comme nous le savons bien, par exemple en Irak, mais on va regarder aussi l'affaire du Vietnam, etc. Et d'autre part, l'économie américaine est très largement marquée par ce qu'on appelait à un certain moment le lobby militaro-industriel. Donc le caractère militaire des États-Unis est fondamental, n'oublions pas. Et par conséquent, pour les États-Unis, tout ce qui concerne le militaire, y compris sur le plan économique, est extrêmement visible, extrêmement sensible. Pour ce qui concerne l'Europe, c'est évidemment totalement différent. Sans entrer dans le débat Mars et Vénus, etc., l'Union européenne, enfin disons l'Europe, est davantage du côté de ce qu'on appelle en anglais le soft power, c'est-à-dire davantage du côté de l'influence exercée par les méthodes, on va appeler douces, si vous voulez. Et il faut voir également que lorsqu'il y a des coupures de crédit en matière de défense, et vous le savez mieux que quiconque, l'opinion publique ne s'en rend pas compte, ça n'est même pas débattu. Alors qu'aux États-Unis, pour les raisons que je viens de dire, c'est évidemment tout à fait différent. Disons qu'il y a bien sûr dans un pays comme la France un lobby militaro-industriel, mais enfin, ce qui n'a absolument rien à voir avec son équivalent aux États-Unis. Et ajoutons à cela que les grands engagements extérieurs des forces, disons, européennes en général, sont plus que controversés. Hein. Et je pense évidemment notamment à l'Afghanistan. où les amis des États-Unis se retirent les uns après les autres. Donc quand on met bout à bout toutes ces explications, tous ces phénomènes, il n'y a pas lieu d'être étonné de ce qui se passe. Maintenant, évidemment, je m'inquiète comme vous, en ce sens que si l'Europe descend au-dessous d'un certain niveau. Et ça, c'est un vieux problème aussi en matière de capacité de production d'armement, parce que je pense qu'un pays qui n'est plus que consommateur, qu'acheteur d'armement produit à l'étranger a évidemment fort peu d'incitation à développer ses forces militaires, sauf quand il estime avoir des menaces directes. Prenez par exemple les pays du Moyen-Orient, évidemment, ils ne produisent pas d'armement pour l'essentiel et ils en achètent partout où ils le peuvent. Mais enfin, l'Europe n'est justement pas dans cette situation. Donc il y a lieu effectivement de s'inquiéter, mais pas forcément de s'étonner.
Je dirais confirmer. Mais le propos que vous tenez sur l'économie américaine, sur l'importance des crédits militaires dans cette économie américaine, et même sur l'innovation, la création.
Absolument.
Je note que l'ensemble des Européens, d'après les chiffres comparés que nous donnait récemment le Wall Street Journal, l'ensemble des pays européens dépensent de l'ordre de 8 milliards de dollars en recherche et développement, c'est-à-dire en recherche d'innovations qui certes peuvent être militaires mais aussi industrielles. On voit bien que pour ce qui concerne Internet, tout ça est né dans des laboratoires de défense. Donc 8 milliards en Europe, 54 milliards aux États-Unis.
En général, quand on regarde les dépenses militaires, je crois que les dépenses militaires des États-Unis, je le dis de mémoire, je ne l'ai pas vérifié récemment, doivent dépasser le double de la somme des dépenses militaires de la dizaine de pays qui suivent dans le classement. Enfin, c'est-à-dire, même si les chiffres que je donne ne sont pas tout à fait exacts, peu importe, c'est un ordre de grandeur. Et il faut bien voir aussi, pour compléter mon premier commentaire, que qui que soit au pouvoir aux États-Unis, que ce soit les démocrates ou les républicains, l'objectif de maintenir une supériorité absolue, y compris dans le domaine qualitatif, donc la recherche et le développement, supériorité absolue non seulement par rapport aux adversaires potentiels, mais par rapport aux alliés, est un objectif fondamental qui ne se discute même pas.
Mais oui.
Donc les États-Unis ne conçoivent pas dans leur tradition, dans leur culture militaire, dans leur culture stratégique, ne conçoivent pas de pouvoir être dépassés, même sur certains segments, même en matière technologique par exemple, même par leurs alliés. C'est quelque chose qui n'est pas concevable. Je crois que cette perspective est très importante. Et notons d'ailleurs en codicille que pour autant, ça ne signifie pas que leur puissance réelle ne soit pas atteinte par les développements de post-soviétiques, parce que nous sommes de plus en plus dans des domaines de stratégie indirecte, dans des situations où la sophistication des armes n'est pas nécessairement un atout décisif dans la victoire.
Oui, absolument. Je noterai d'ailleurs par parenthèse, pour ce qui est de notre pays, la France, ses effectifs de police et de gendarmerie intérieure sont aujourd'hui de l'ordre de 240 000 hommes, alors que son armée de terre est autour de 110-120 000 hommes. Cela signifie bien que la conception que nous avons et que nous allons voir se multiplier en Europe, c'est d'avoir une puissante force de maintien de l'ordre et de sécurité à l'intérieur, tandis que la capacité de projection, finalement, elle est mutualisée de plus en plus au sein de l'Alliance Atlantique, pour nous résumer.
Et c'est une mutualisation biaisée, pour dire le moins, parce que en réalité, les Européens, dans leur ensemble, n'ont pas tellement envie de projeter la force à l'extérieur. Et d'autre part, d'ailleurs on l'a bien vu dans la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale dont je faisais partie, que les questions de sécurité intérieure prennent évidemment une importance de plus en plus grande. Et il y a une véritable logique là-dedans.
Tout à fait. Alors, dans ces pays de l'Alliance Atlantique et de l'organisation militaire intégrée, il y a la Turquie. Et nous avons vu à travers l'affaire du blocus de Gaza, de la flottille partie de Turquie avec des éléments proches du Hamas, vouloir donc briser ce blocus, se heurter à la marine israélienne avec les événements que nous avons suivis, qui ont donc provoqué 9 tués du côté des militants du Hamas et de leurs alliés. Nous avons constaté à travers ces événements que la Turquie avait clairement, dans l'affaire israélo-palestinienne, notamment, changer de camp. Elle vient de décider, et elle l'a annoncé officiellement, que l'aviation israélienne ne pourrait plus survoler le territoire turc, ce qui lui était très utile pour ses exercices ou pour des transports. Et cela a été révélé au moment d'un transport de passagers se rendant d'Israël vers le camp de concentration d'Auschwitz. Donc cela va très loin. Donc qu'est-ce qui se passe avec la Turquie ? Est-ce que ce pays est en train de changer de politique, de stratégie ? Est-ce qu'il est en train de faire chanter les membres de l'OTAN parce qu'on ne lui a pas ouvert les portes de l'Union européenne ? Bref, quel est votre sentiment ?
Il se trouve que depuis notre dernier entretien, je suis allé en Turquie et j'ai rencontré beaucoup de monde, y compris d'ailleurs le président de la République, Abdallah Gül, que j'ai eu l'occasion de recevoir d'ailleurs plusieurs fois à l'IFRI. Je crois que les Occidentaux ne comprennent pas bien et se trompent dans leur analyse de la Turquie. La Turquie, depuis l'arrivée de l'AKP au pouvoir, donc de M. Erdogan, l'actuel Premier ministre, l'AKP, ça n'a peut-être pas été suffisamment remarqué, a fait la paix pratiquement avec tous ses voisins. Alors que la Turquie précédemment était, on peut dire, en querelle avec tous ses voisins précédemment. Et même s'il y a des hauts et des bas, ceci vaut également pour l'Arménie. Donc ceci, c'est le premier point. D'autre part, n'oublions pas que la Turquie, du fait de son passé, de son histoire, est une puissance majeure au Moyen-Orient. Je crois que la Turquie considère que les Occidentaux ne comprennent pas bien le Moyen-Orient, qu'ils se plantent beaucoup, ce qui n'est pas entièrement faux. Mais il y a quelque chose, à mon avis, beaucoup plus profond que ça, qui s'applique aussi à un pays comme le Brésil et à M. Lula, car n'oublions pas d'ailleurs que lorsque cette fameuse démarche, n'est-ce pas, sur les affaires nucléaires à Téhéran a été faite conjointement par M. Erdogan et par le président Lula, je pense qu'il y a l'idée suivante, n'est-ce pas ? C'est qu'au fur et à mesure que les pays qu'on appelle émergents se développent, ils prennent du poil de la bête et ils se montrent de plus en plus, ils affirment de plus en plus leur position, leurs intérêts sur la scène internationale. Et je pense que ces pays, et ceci vaut naturellement pour des pays comme la Chine ou comme l'Inde, pays que j'ai visités également depuis notre dernier entretien, ces pays-là vont de moins en moins, et là je pèse mes mots, de moins en moins accepter que sur des questions majeures comme le Moyen-Orient, ce soit les Occidentaux qui donnent le là, qui décident de tout, généralement, souvent, il faut bien le dire, mal, oui. Ou de façon biaisée. Et il ne s'agit pas, je crois, de position anti-occidentale ou en particulier anti-américaine. Il s'agit d'affirmer, de manifester des positions tout simplement différentes. Et là aussi, je pèse mes mots. Je crois que, hélas, les Occidentaux, les Américains à leur tête, se montrent incapables de progresser, par exemple, dans le dossier israélo-palestinien. De ce point de vue-là, il y a une grande déception avec la présidence Obama. Obama s'est donné du mal, mais ses efforts ne sont pas couronnés de succès. Et il est lui-même pris dans toutes les contradictions de la politique intérieure américaine. Et par conséquent, je crois que dans les années et décennies qui viennent, nous allons voir progressivement, je ne dis pas du jour au lendemain, un changement de centre de gravité, un déplacement du centre de gravité sur certains grands dossiers internationaux. Je pense au Moyen-Orient, bien sûr. Et je vais même dire quelque chose un petit peu à l'emporte-pièce par rapport aux nuances, oui, que j'essaye d'introduire par ailleurs, c'est qu'il y a quelque part l'idée non exprimée que si les Occidentaux sont incapables de résoudre le problème, eh bien ce sont les autres qui le résoudront. Et vous allez voir progressivement qu'il s'agisse de l'Iran, qu'il s'agisse d'Israël et des Palestiniens, etc. Vous allez voir que progressivement, des pays, y compris la Chine, y compris l'Inde, y compris le Brésil, y compris la Turquie qui fait partie de l'OTAN, mais c'est justement aussi tout l'intérêt de la question.
Bien
c'est
sûr.
Un pays de l'OTAN qui manifeste, au sens, qui devient un peu gaulliste, si vous
absolument
voulez,
tout à fait.
L'époque où la France a cessé de l'être.
Oui, oui.
Et derrière tout ça, nous allons voir des changements considérables. Et dernière remarque liée à cela, c'est qu'effectivement, n'est-ce pas, les pays occidentaux sont également très largement prisonniers de leur propre histoire. et notamment évidemment de l'histoire de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement de la Shoah, de tout ce qui a précédé. Et ces considérations-là, qui sont évidemment, qui nous taraudent et qui sont au cœur de nos problématiques, ne jouent absolument pas dans un pays comme la Chine ou même comme la Turquie, dont je rappelle cependant que la Turquie n'a jamais été antisémite. Jamais.
Oui, oui.
Et en particulier...
C'est la raison pour laquelle d'ailleurs.
Absolument.
Donc, elle avait d'excellentes relations avec Israël.
Depuis 1492, puisque vous avez toute une implantation juive, une tradition juive en Turquie, dans l'Empire ottoman jusqu'à maintenant. Et tout ça s'est passé pendant plus de 5 siècles d'une manière relativement harmonieuse. Donc, c'est un petit peu long, mais je crois que le sujet le mérite. Je pense que ce que nous observons à l'heure actuelle dépasse de très, très, très loin la question des possibles récriminations parce que les négociations sur l'Union européenne ne progressent pas suffisamment vite. Je pense que le sujet est beaucoup plus profond que ça.
Ce qui veut dire...
Et j'ai essayé de l'indiquer.
Oui, tout à fait. Mais ce qui veut dire, parce que c'est très important, ce qui veut dire que l'AKP, c'est-à-dire donc le parti gouvernemental majoritaire, est en fait un parti nationaliste turc, d'une certaine manière.
Alors, je crois qu'en effet...
Sans être fidèle à Atatürk, c'est-à-dire qu'il s'y met aussi un peu d'islamisme.
Alors, je dirais pas d'islamisme,
non,
vraiment,
certes,
mais un peu de nationalisme, sûrement. Et du reste, ce point que vous soulevez est en effet très important, parce que la question de savoir si le parti kémaliste peut, ou le parti républicain du kémaliste peut revenir au pouvoir, c'est une question qui se pose aujourd'hui, de la même manière que le successeur de Lula au Brésil ne sera pas forcément sa protégée. Bon. Mais malgré tout, je crois que dans l'un comme dans l'autre cas, les choses ne sont plus tout à fait comme avant. Et en particulier, je crois que je suis sûr que les Turcs sont fiers de cette posture.
Alors effectivement, on a vu cette alliance tripartite très originale entre le Brésil de Lula, la Turquie d'Erdogan, l'Iran d'Ahmadinejad, prendre une sorte de relation, enfin affirmer des relations entre eux qui paraissaient... tout à fait contradictoire ou en tout cas contrevenu par rapport aux positions occidentales, enfin originales.
Mais parce que les positions occidentales sont extrêmes, manquent de nuances, parce qu'elles sont, naturellement, les Iraniens, ça je... Depuis des années, je ne cesse de le répéter à qui veut bien l'entendre, n'est-ce pas ? Les Iraniens sont d'extraordinaires diplomates, extraordinaires. Ce sont des gens qui embobinent tout le monde. Mais nous avons des attitudes à leur égard qui sont des attitudes un peu caricaturales. Mais il n'y a pas que les pays que vous avez cités. Prenez par exemple la Chine et l'Inde. Alors, il est sûr, il est certain, évidemment, ils ont signé la fameuse résolution des Nations Unies, mais ils l'ont signé avec tout de même beaucoup de concessions de la part des Américains et des Occidentaux, puisque pour l'essentiel,
là, donc de la résolution sur l'Iran.
Je parle de la résolution sur l'Iran, puisque la démarche de Lula et d'Erdogan était liée à cette résolution, puisque c'était une démarche qu'ils avaient faite pour justement éviter la résolution en question. Et finalement, ils ont voté contre le Brésil et la Turquie, ont voté contre cette résolution. Et cette résolution a été votée donc par la Chine et l'Inde en particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que pour autant, on aurait bien tort d'en déduire que la Chine et l'Inde, pour prendre ces deux pays, se sont entre guillemets alignés sur les positions occidentales. Ou la Russie d'ailleurs, la Russie que j'aurais dû citer. En réalité, n'est-ce pas, ils ont fait énormément, les Américains ont fait, et les Occidentaux ont fait beaucoup de concessions. Par exemple... La Russie a obtenu de pouvoir continuer de vendre très largement ses armements à l'Iran, alors qu'elle avait ralenti le mouvement et qu'elle s'était même abstenue au vu des résolutions précédentes dans les années qui précédaient. Vous voyez que tout ça est quand même assez subtil. Et du côté chinois, il faut voir que là aussi, les Chinois ont préservé l'essentiel, on peut le dire, de leurs intérêts économiques.
Absolument. Nous allons évoluer dans notre parcours de cette actualité internationale. Nous sommes au Moyen-Orient et nous allons donc glisser vers le théâtre afghan parce que celui-ci donc vient de connaître de nouveaux bouleversements dans la mesure où le président Obama a été conduit à se séparer du général McChrystal qui avait affirmé sa personnalité et également sa stratégie dans cette affaire d'Afghanistan. Ce que cela révèle, c'est en tout cas au sommet de l'administration américaine, comme on dit, c'est-à-dire de l'équipe Obama, des points de vue assez divergents sur la conduite de la guerre et la conduite de la politique en Afghanistan. Alors, Macristal n'a été que le révélateur de cette histoire. Du point de vue militaire, son successeur, le général Petraeus, en gros, est aligné, pas aligné, puisqu'il est l'un de ceux qui ont défini cette doctrine de contre-insurrection. Donc, les changements militaires ne sont pas considérables, mais en revanche, du point de vue stratégique, politique et diplomatique, ce sont beaucoup de signes tout de même contradictoires qui viennent sans doute renforcer le Pakistan dans l'idée que s'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être lui qui le fera parce qu'à un moment donné, les Américains vont partir. Et les talibans doivent également se dire, dans cette affaire, il suffit de jouer le temps et nous l'emporterons.
Alors là aussi, n'est-ce pas, nous avons un problème énorme. Alors vous avez évidemment tout à fait raison. Je crois que l'affaire Macristal est un révélateur. En réalité, la plupart des observateurs fins de la scène américaine conclut que c'est la pétaudière, et que c'est la pétaudière depuis longtemps, hein, pas depuis longtemps, et depuis Bush, en réalité. Ouais. Et donc, il y a un problème d'autorité, n'est-ce pas, du président, qui était déjà là avec le président Bush, je ne sais pas s'il faut dire encore plus, en tout cas tout autant, avec le président Obama. Et donc, après ces révélations, d'ailleurs malencontreuses, parce que je crois que, au fond, je veux dire, s'il n'y avait pas justement ce contexte général, c'était relativement bénin en définitive. Mais donc, Obama a cherché à donner un coup de poing sur la table. Bon, va-t-il pour autant améliorer la situation? Je n'en suis pas sûr, parce qu'il y a de vraies hésitations. Je crois que derrière cette pétaudière, il y a effectivement un problème qui est que la stratégie américaine en Afghanistan n'est pas totalement convaincante, et que je ne suis même pas sûr que ceux qui la mettent en avant en soient eux-mêmes convaincus. Donc il y a de véritables doutes aux États-Unis. Alors qu'en face de ça, un pays comme le Pakistan, lui, il a les idées parfaitement claires.
Oui.
Effectivement, pour le Pakistan, compte tenu de la problématique historique de la sécurité du Pakistan, de sa relation avec l'Inde, etc., pour le Pakistan, avoir un certain contrôle sur ce qui se passe en Afghanistan est vital. Donc pour l'Afghanistan, c'est un enjeu vital. Et pour les États-Unis, c'est un enjeu très important dans la mesure où il y a derrière les phénomènes Al-Qaïda, etc. Mais enfin, c'est un enjeu quand même relativement mal défini. Donc nous sommes ici dans une asymétrie importante, et vous comprenez quand on explique partout qu'il faut que les Américains se retirent à une date prédéterminée, que l'opinion publique ne supporte de moins en moins la présence de ces boys là-bas, etc., ça ne peut qu'affaiblir les États-Unis, et ça ne peut que renforcer au Pakistan la position de ceux qui estiment qu'ils doivent prendre tout cela en main, d'autant plus, ne l'oublions jamais, que la préoccupation majeure du Pakistan, c'est toujours l'Inde, et que la terreur des stratèges pakistanais, c'est que l'Inde ne prenne pied en Afghanistan.
Ah mais oui, exactement, exactement. Mais alors, vers quoi se dirige-t-on? Parce que, effectivement, le calendrier est très court. Obama a annoncé un début de retrait pour l'été 2011, ça veut dire dans un an. Dans un an, à la cadence où se déroulent les choses en Afghanistan aujourd'hui, où l'on voit les pertes s'intensifier mois après mois et de manière dangereuse, on se dit qu'en effet, cette stratégie n'est pas claire et on n'en voit pas bien l'issue.
Alors, je crois que vers quoi on se dirige? Vers quelque chose de pâteux. C'est-à-dire que, d'abord, bien entendu, les Américains, ils disent qu'ils commencent à se retirer, mais qu'en même temps, ils ne vont pas se retirer. Enfin, tout ça, la signification exacte du retrait n'est pas très claire. Je crois qu'il continuera d'y avoir une présence américaine, et j'allais dire malgré tout allié, mais qui va être de plus en plus faible en proportion pour toutes les raisons qu'on a débattues précédemment. En tout cas, il y aura une présence qui va durer probablement encore un certain nombre d'années, et puis des espèces de compromis pas très satisfaisants qui se feront avec le Pakistan. Je crois que le Pakistan, en effet, va être un acteur de plus en plus important, mais l'Afghanistan va se retrouver, je crois, largement, ce qu'il est d'ailleurs déjà contrôlé par les talibans ou par certains talibans, mais dans une configuration qui sera moins nette, plus ambiguë que celle qui a prévalu avant 2001.
Thierry de Montbrial, merci beaucoup. Je crois que nous avons tenté de bien éclairer cette actualité internationale qui se charge à chaque fois de nous souffler ces sujets. Et donc, nous allons nous retrouver au mois de septembre, en sachant que le mois d'août est généralement calme dans l'actualité française, et toujours très tendu dans l'actualité internationale.
Exactement.
Merci encore, Thierry.
Merci, François.